à cette période de l'année, ben, c'est vrai que les jours sont courts, bien que le jour le plus court, c'était il y a une semaine quand même. Et depuis, petit à petit, on a grignoté 3 minutes de plus. Bon, ça va pas bouleverser nos journées, mais on va dans le bon sens. C'est d'ailleurs ce besoin de lumière qui pousse certaines personnes à inonder leur maison de décorations lumineuses. Et lorsqu'on parcourt les villes et les villages, on est impressionné par la débauche de lumière sur certaines maisons. Il est vrai que toutes ces décorations lumineuses ne sont pas toujours de bon goût. Et souvent, elles n'ont pas grand-chose à voir avec Noël, en tout cas le Noël chrétien. J'ai quand même trouvé dans cette profusion de lumière un sujet de réflexion. Lorsqu'on s'approche de certaines décorations, on constate que cette impressionnante luminosité n'est produite que par de toutes petites ampoules, si petites qu'une seule d'entre elles passerait totalement inaperçu. Et même si vous en preniez une dizaine, ça ne suffirait pas pour éclairer votre table de chevet. Pourtant, ces milliers, voire ces millions d'ampoules, créent ensemble une telle luminosité que, depuis loin, on ne voit qu'une masse de lumière qui éclaire même le ciel et qui pourrait presque faire penser à un lever de soleil ou un coucher de soleil. De là à faire penser à l'Église qui, avec des chrétiens quelquefois qu'on peut considérer comme faibles, eh bien, peuvent quand même éclairer, grâce à toute l'Église, éclairer le monde. Au fait, êtes-vous d'accord de briller, vous, en tant que chrétien, de briller là où Dieu vous a placé? Et moi-même, est-ce que je brille? Parce que une ampoule, elle est faite pour ça. Comment peut-on briller? Pour qu'une ampoule brille, il suffit qu'elle soit branchée sur une source d'électricité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 8 à 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est en effet sur notre Seigneur que nous devons être branchés si nous voulons briller. C'est lui qui, par le Saint-Esprit, peut nous donner l'énergie nécessaire pour être lumineux. Certaines guirlandes lumineuses ont des ampoules qui sont branchées en série. C'est-à-dire que chaque ampoule dépend de l'ampoule qui la précède. Ces guirlandes-là ont un gros inconvénient, c'est que si une ampoule grille, elle s'éteigne toute. Dans notre vie spirituelle, c'est un peu pareil. Notre foi ne doit pas dépendre d'un frère ou d'une sœur, aussi spirituel qu'il puisse être. La foi, c'est quelque chose de personnel et nous devons dépendre de Jésus seul. Nous ne devons pas dépendre de la foi des autres. Quand j'étais jeune, enfin, je vous rassure, je le suis encore, hein, mais de moins en moins. Donc, quand j'étais jeune, il y avait un chant qu'on chantait qui disait « Je suis la lumière, a dit le Seigneur. » Et dans le refrain, on disait « Le monde est plein d'ombre, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. » Eh bien, la seule manière de bien briller, c'est d'être réellement branché sur Jésus. Et c'est la première chose que je voudrais vous dire ce matin, que je voudrais vous laisser ce matin. Vous avez votre place dans l'éclairage que Dieu veut donner au monde. Même si votre lumière est faible, même si elle est petite, même si elle semble insignifiante, eh bien, elle est importante. Mais ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas admiré vous-même. Chaque ampoule est banale, c'est l'ensemble qui est merveilleux. D'ailleurs, si vous vous promenez dans les rues de Montbéliard, vous ne verrez personne s'extasier sur une des ampoules et personne ne va se mettre à photographier une des ampoules. Pourtant, beaucoup de personnes viennent de loin pour admirer l'ensemble et pourquoi pas prendre des photos de l'ensemble. Même si je reconnais, en passant à Montbéliard, que ces lumières de Montbéliard sont une réussite et que l'ensemble des décorations est assez impressionnant, j'ai trouvé une ville beaucoup plus impressionnante, beaucoup mieux éclairée, beaucoup plus éclatante que Montbéliard. Et nous allons lire dans l'Apocalypse, au chapitre 21, à partir du verset 10. « Et l'ange me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. » Et plus loin, au verset 18, « La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Or pur transparent, pierre précieuse, là, sans aucun doute, on est dans une autre catégorie de ville. Et aucune ville sur cette terre ne peut se targuer d'être à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Est-ce que vous la connaissez, cette ville? Est-ce que vous l'avez déjà vue? De quoi, ou plutôt de qui, est-elle constituée? Cette ville qui a pour fondement les 12 apôtres, elle ne nous est pas inconnue. Et si on lit le début du chapitre 21 de l'Apocalypse, eh bien, il nous explique qui est cette ville. Donc, à partir du verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et plus loin au verset 9, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et c'est à la suite de ce texte qu'il y a la description de cette ville dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, cette ville éclatante, faite d'or pur, de pierres précieuses, de choses merveilleuses, c'est l'épouse de Christ. C'est même dit, c'est la femme de l'agneau. Et la femme de l'agneau, l'épouse de Christ, c'est l'Église. Et l'Église, a priori, c'est nous. Ainsi, ce lieu étincelant, pur, qui est le lieu de résidence de l'Éternel pour l'éternité, c'est nous. C'est clairement dit au verset 3, « Ceci est le tabernacle de Dieu et les hommes ». Ceci, ce sont les hommes. La Bible nous avait déjà dit que nous étions le temple du Saint-Esprit. Nous connaissons tous 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et puis dans 2 Timothée 1,14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et puis il y a d'autres textes. Et il est clair pour tout le monde que la Bible nous dit, nous explique que nous sommes le temple du Saint-Esprit et explique clairement aussi que nous sommes l'épouse de Christ. Et là, l'Apocalypse nous dit que nous deviendrons cette chose extraordinaire, pure, précieuse aux yeux de Dieu et habitation de Dieu pour l'éternité. Dans Jérémie chapitre 31, versets 33 et 34, on lit « Mais voici l'alliance que je ferai avec mon peuple. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ainsi donc, Jérémie avait déjà eu cette révélation d'une proximité de Dieu telle que il n'y aurait plus besoin d'être enseigné de Dieu parce que sa présence serait en nous. Et il avait eu cette révélation de cette pureté qui allait caractériser le peuple de Dieu. Mais alors, comment passer de cette petite ampoule insignifiante à cette brillance, à cette pierre précieuse, à cette ville éclatante qu'est l'épouse de Christ? Comment passer de cette vague lumière à cette grande lumière qui éclairera l'épouse de Christ? Est-ce que nous pouvons y parvenir par nos efforts? Lorsque David a eu l'intention de construire un temple, Dieu lui a répondu clairement que ce n'était pas à lui de le construire. Et on se rappelle le récit de 1 Chronique, chapitre 17, versets 1 à 14. Lorsque David fut installé dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « J'habite une maison de cèdre alors que le coffre de l'Alliance du Seigneur est sous les toiles de tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as sur le cœur, car Dieu est avec toi. » Cette nuit-là, la parole de Dieu parvint à Nathan. « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur, ce n'est pas toi qui me bâtiras la maison dans laquelle j'habiterai. » Et au verset 10, plus loin au verset 10, « Je t'ai annoncé que c'est le Seigneur qui bâtira une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je susciterai après toi ta descendance, l'un de tes fils. J'affermirai son règne, c'est lui qui bâtira une maison pour moi et j'affermirai pour toujours son trône. Moi, je serai son père et lui sera mon fils. » Je ne lui retirerai pas ma fidélité comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Alors nous savons tous que Salomon, un des nombreux fils de David, a fait un temple pour recevoir l'Arche de l'Alliance, et que cette promesse d'un successeur qui bâtit un temple pour les Juifs a en quelque sorte trouvé son accomplissement avec ce fils. Mais pour nous, chrétiens, nous savons que cette promesse va bien au-delà. Nous pouvons lire dans Luc, chapitre 1, verset 31, « Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » On voit dans ce passage que ce fameux successeur de David, qui devait construire le vrai temple, c'est plus que Salomon. D'ailleurs, le verset 10 qu'on a lu tout à l'heure de 1 Chronique disait « C'est le Seigneur qui bâtira. » Et il n'y a qu'un seul Seigneur. Alors oui, Salomon veut dire paix, mais le prince de la paix, c'est Jésus. Oui, Jésus est celui qui correspond pleinement à la définition que Dieu a donnée à David par Nathan, descendant de David, homme de paix, qui sera pour Dieu un fils, qui sera établi sur le royaume de Dieu et dont le règne durera toujours. Pas de doute dans cette description, on retrouve Jésus. Et Jésus, c'est plus que Salomon. Et d'ailleurs, Paul disait bien dans Actes 17, 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. » Et Jésus a affirmé à Pierre dans Matthieu 16, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce n'est donc pas nous qui pouvons nous transformer dans cette ville merveilleuse, mais c'est Jésus qui va bâtir ce temple de Dieu pour l'éternité. C'est lui, Jésus, qui nous transforme et qui nous construit. Alors, c'est vrai que Dieu a pourtant donné l'occasion aux hommes de faire ce temple dont ils avaient envie, il l'a même béni et il en a inspiré toute la construction afin qu'elle soit une merveilleuse parabole pour nous enseigner. Mais le vrai temple n'est pas cet édifice de pierre et de bois qui se trouvait à Jérusalem, même s'il était couvert d'or. Et lorsque les disciples font admirer à Jésus les grandes pierres qui constituent le temple, Jésus leur dit « Il ne restera pas pierre sur pierre de cet édifice. » Et cette prophétie de Jésus s'est accomplie quelques dizaines d'années plus tard. Si Jésus disait cela à ses disciples, c'est parce qu'il était temps pour eux de comprendre que le vrai temple allait se construire. C'est parce qu'il est temps pour eux de comprendre que tout va changer pour eux, que tout ce qui était physiquement construit à Jérusalem deviendrait spirituel. Dieu a simplement permis la construction de l'édifice de pierre et de bois parce qu'Israël voulait exprimer aux yeux du monde qu'il avait un grand Dieu. Et pour cela, Israël voulait utiliser la même méthode que les autres peuples, faire un édifice grandiose à la hauteur de leur Dieu. Pourtant, de tout temps, le plan de Dieu, c'était de faire passer le message par l'homme. C'est l'homme se confiant en Dieu qui devait être le témoignage de la grandeur de Dieu. Et en l'occurrence, dans l'Ancienne Alliance, c'était Israël qui devait être ce témoin. C'était sa mission. Et c'est ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. C'est aussi ce qu'il inspire à David dans 1 Chronique 16, 24. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. C'était déjà des instructions données à Israël d'être témoin et de raconter les merveilles de Dieu. C'est ce que Dieu inspire aussi à Ésaïe. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappée vers les nations, à Tarsis, à Pul, à Lude, qui tire à l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont jamais vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Israël a voulu faire un temple à la gloire de Dieu, mais en réalité, c'était leur mission à eux de transmettre cette gloire, de faire voir cette gloire. Beaucoup de psaumes nous rappellent aussi cette mission de témoignage qu'a eue Israël. Le psaume 98, verset 2, « L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bienveillance et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Et toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » Au psaume 105, verset 1, célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Au psaume 67, versets 1 à 3, que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. » Le message de Dieu était clair. Le témoignage devait être apporté par Israël. La mission d'Israël était déjà d'être, en quelque sorte, le temple vivant du témoignage de Dieu. Et c'est maintenant la mission qui nous incombe à nous, l'Église. Alors, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire ce matin. Le témoignage vécu a une grande efficacité, plus que n'importe quel monument ou bâtiment. C'est ça. Être le temple de Dieu, c'est être témoin. Et David l'a expérimenté lorsqu'il écrit dans le psaume 40 « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. » Moi, je trouve ces versets merveilleux. C'est tellement beau. La part de l'homme, c'est se confier en Dieu. Et Dieu fait tout le reste. Il s'incline vers moi. Il m'écoute. Il me retire de la fosse. Il dresse mes pieds sur le roc. Il affermit mes pas. Et c'est même lui qui met dans ma bouche un cantique de louange. Et tout cela, nous est dit, ça sert au témoignage. Beaucoup l'ont vu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont à leur tour confiés en l'Éternel. C'est ça le témoignage. C'est ça l'édifice. C'est ça le temple. C'est ça que doit être l'Église. Oui, en voyant l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme, l'homme peut être touché. Ce ne sont pas les œuvres que construisent les hommes qui touchent les cœurs des autres hommes, mais c'est l'œuvre que Dieu construit en nous. Si le temple de Jérusalem n'était pas vraiment le vrai témoignage que Dieu voulait donner aux nations, il est pourtant plein de symboles, et au travers de ces symboles, il y a aussi un message pour nous. Alors, je ne vais pas m'attarder sur toutes les dimensions, l'autel, le parvis, l'arche et toute la symbolique que l'on pouvait trouver dans ce temple, mais plutôt regarder aux matériaux qui construisent le temple et qui sont finalement un petit peu ce que nous sommes nous, puisque nous sommes le temple de Dieu. Et nous pouvons le dire dans 1 Chronique, chapitre 22, versets 2 à 4. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous, des bâtons, des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. Oui, dans l'Église, nous sommes peut-être quelquefois un peu durs comme ces pierres, et avant de pouvoir nous utiliser, eh bien, il a fallu que Dieu aille nous chercher dans les carrières du monde pour nous extraire de là, et pour nous scier, pour nous rendre plus droits, et pour nous tailler, pour nous intégrer dans l'édifice. Ça nécessite quelquefois quelques efforts. C'est la même chose pour les cèdres. Laura parlait des cèdres tout à l'heure et de leur grandeur. Mais pour être utilisés dans le temple de Dieu, il a fallu les couper de leurs racines, il a fallu leur enlever leur majestueux branchage, les raboter, les transformer en planches. Et une fois que les planches étaient dans l'édifice, on ne voyait pas de différence entre la planche qui avait été taillée d'un magnifique grand cèdre par rapport à une planche qui avait été taillée dans un plus petit. Elles étaient égales devant Dieu. Il y avait aussi des crampons d'airain. Et là, il n'était pas question de les tailler, mais de les fondre dans le minerai pour le faire entrer dans le moule et pour qu'il prenne parfaitement la forme utile. Il y avait enfin une quantité extraordinaire de clous en fer. Et eux aussi, ils avaient été forgés au marteau. À l'époque, c'était pas des, on faisait pas des clous sur des tours, ni sur des machines spéciales. On les forgeait au marteau, les clous. Alors, ne soyez pas trop surpris si quelquefois vous êtes taillé, forgé, moulé, frappé, vous l'êtes pour une grande cause, pour l'édification du temple de Dieu, pour passer de petite ampoule insignifiante à pierre précieuse. C'est là la troisième chose que je voulais vous dire ce matin. L'épreuve est non seulement possible, mais elle est indispensable pour devenir cette habitation resplendissante que Dieu veut pour demeure. Il y a une remarque importante que nous pouvons lire dans le livre des Rois au chapitre 6 et au verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Cela signifie que lorsque les pierres, les cèdres, les clous, les crampons arrivaient sur l'emplacement de la construction, ils étaient déjà taillés, forgés, moulés, sciés. Autrement dit, les coups de burin, on les reçoit dans la carrière, pas dans le temple. Dans le temple, pas de scie, pas de burin, pas de hache, pas de marteau. En effet, ce n'est pas une fois dans le ciel que nous serons mis à la bonne dimension. Et c'est ce qui doit nous rendre heureux d'être éprouvés ici sur cette terre, d'être mis au bon gabarit ici sur cette terre. Parce que les pierres boiteuses inégales, elles ne seront pas sur le chantier. Les planches qui ne sont pas à la bonne dimension, les clous pas forgés, pas assez pointus, tout cela n'arrivera pas sur le plancher, sur le chantier. Et dans la parabole des noces, Jésus dit dans Matthieu, chapitre 22, versets 11 à 14, « Bien sûr, nous avons encore beaucoup d'imperfections. » Alors je vais vous lire le passage quand même. « Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains. » Et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors bien sûr, nous avons encore beaucoup d'imperfections, beaucoup d'aspérités, nous avons encore besoin de passer sous le rabot. Mais ce qui doit nous rassurer, et on l'a exprimé tout à l'heure en prenant la Sainte Cène, c'est que Jésus a payé le prix de notre robe blanche. Nos imperfections, si nous nous confions en Christ, eh bien, Jésus les recouvre. Et c'est ce qui doit nous rassurer. Bien sûr, nous avons besoin d'être forgés, formés, mais nous ne serons jamais parfaits ici. Mais lorsque nous arriverons là-haut, nous serons parfaits. Parce que nous serons vus au travers du sang de Christ. Si nous reprenons l'image du temple terrestre qui a été construit à Jérusalem, eh bien, on voit dans les textes que David avait choisi et qu'il avait sélectionné des matériaux. On voit que Salomon a rassemblé tout cela et qu'il a confié tout cela à Huramabi, l'habile ouvrier, pour mettre tout en œuvre. Eh bien, de même, Nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été rassemblés par le Fils. Et c'est cet infatigable ouvrier, le Saint-Esprit, qui nous conduit, qui nous forme. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » Et 14, 16, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et plus loin, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Enfin, au chapitre 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et pour terminer, au chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit est le conducteur de travaux qui sera toujours présent, qui nous enseignera toutes choses, qui nous conduira dans la volonté du Père et du Fils et qui nous conduira dans la vérité. Et c'est la quatrième chose que je voulais vous dire ce matin. Nous avons donc tout ce qu'il nous faut pour arriver au terme de notre voyage et devenir cet édifice merveilleux et décrit dans l'Apocalypse. C'est Dieu qui nous a choisis pour être cette ville merveilleuse, purifiée, brillante. Nous serons brillants. On n'est pas toujours ici, mais nous serons brillants et purs. C'est l'image que Dieu a de nous, et c'est l'image que Dieu donne de nous dans l'Apocalypse. Ce n'est pas tout à fait la bonne description de l'Apocalypse, ce qu'on voit là, mais enfin, ça donne un aperçu quand même. Seigneur notre Dieu, nous sommes quelquefois confus quand nous voyons notre état pas toujours droit, pas toujours à la bonne dimension, pas toujours bien dans le moule. Mais c'est vrai, Seigneur, que comme David l'a exprimé dans le psaume 40, nous voulons nous confier en toi. Et toi, tu fais tout le reste. C'est toi qui nous formes, qui nous forges, si nous voulons bien nous mettre dans les mains de cet habile ouvrier, le Saint-Esprit, qui veut faire de nous des pierres vivantes pour son temple. Et nous voulons nous réjouir. Nous ne savons pas exactement ce qui nous attend dans l'éternité, mais nous savons que ce sera merveilleux, que ce sera brillant, que ce sera pur, que ce sera vrai et que tu habiteras pour l'éternité avec nous. Merci Seigneur. Amen.